RMC. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours en direct. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux aussi où sont postées toutes nos vidéos, notamment sur Twitter avec notre community manager Alexandra Bischoff. Nous sommes avec aujourd'hui Elina Dumont, intervenante sociale, Kaya Outer Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, Stéphane Manigold, restaurateur et des nôtres. Vous avez raté les grandes news, vous avez les podcasts aussi à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Nous serons tout à l'heure à midi moins 20 avec le représentant des commissaires de police et David Lebars qui sera avec nous pour reparler justement avec lui de cette proposition de légalisation du cannabis, des rodéos urbains, des moyens qui sont donnés aujourd'hui aux policiers. Et encore d'ailleurs, une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux d'un refus d'obtempérer qui s'est passé dans le centre de Paris avec la voiture de police qui est allée, comme on dit, au contact, qui est allée percuter le fuyard pour pouvoir ensuite l'immobiliser. Est-ce que c'est un droit aujourd'hui que peuvent réclamer les policiers, notamment en ce qui concerne les rodéos urbains? Bref, David Lebars tout à l'heure avec les grandes gueules à midi moins 25. Il est temps, de parler du patron de Monsieur Lebars, c'est Gérald Darmanin.
RMC.
GG, 7 et match.
C'est le ministre qui est au centre de toutes les critiques en ce moment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On pointe du doigt sa lutte contre son échec dans la lutte contre les trafics de drogue et le cannabis en particulier. L'affaire de l'imam Iqiyoussen. Gérald Darmanin aujourd'hui en désaccord avec le président de la commission des lois, Sacha Houlier, qui pourtant dépose une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Gérald Darmanin est-il un ministre en échec? Ça ne souffre d'aucune hésitation ou contestation de la part d'Éric Ciotti, le monsieur sécurité chez les Républicains.
Le ministre de l'Intérieur, il est souvent désavoué. Le président de la République l'a récemment désavoué sur son projet de loi immigration. Il est en conflit aussi avec le ministre de la Justice sur sa volonté d'expulser plutôt les étrangers délinquants. Il est également en contradiction avec le ministre de la Justice sur sa volonté d'aggraver les peines sur les rodéos. Donc, on voit bien que sa position au sein du gouvernement, elle est loin de faire l'unanimité.
Voilà, Éric Ciotti, interrogé par nos confrères de BFM Nice. Un ministre en échec, Gérald Darmanin. Une équipe, oui, Elina Dumont et Kaya Outer Ben Mohamed. Seul contre tous, il est le camp du non. On verra si c'est lui qui a raison. Si la partie ne va pas être simple, c'est Stéphane Manigold, le restaurateur. Mais la parole à l'équipe, oui, la minute, service. Kaya Outer Ben Mohamed, c'est parti.
En préambule, je souhaiterais qu'on offre une carte de membres d'honneur à Éric Ciotti au Rassemblement National, comme ça au moins les choses seront plus claires. Ça, ceci étant dit, je suis allée voir sur Internet quelles étaient les fonctions d'un ministre de l'Intérieur et globalement, c'est le maintien et la cohésion des institutions du pays via deux grands pôles, administrer le territoire et garantir la sécurité des citoyens et des biens. Quand on a dit ça, on a tout dit, sauf que moi j'ai l'impression, depuis l'apparition de ce monsieur, il y a un peu plus de deux ans, qu'on est dans la télé-réalité en fait du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'en France, il y a beaucoup... On a pointé, enfin, dans ton préambule, là, tu nous as dit quelques problèmes. Il y a un problème de narcotrafiquants qui est de plus en plus important, notamment sur le territoire où je vis. Des violences faites aux femmes qui sont aujourd'hui toujours pas protégées, malgré des grenelles, malgré tout ce que tu veux. Toujours des femmes qui meurent tous les jours, on n'en parle pas, on n'en parle plus parce qu'on est dans des habitudes. Il y a des violences quotidiennes en direction des enfants. Moi, je propose à ce monsieur, s'il nous écoute, et j'espère qu'il nous écoute, de nommer un porte-parole qui va aller faire les plateaux télé tous les jours et qui nous arrête ses sorties médiatiques tous les jours et qui se mette réellement au travail parce que s'il veut réellement être président dans 5 ans, c'est avec des mesures concrètes et des actions efficaces pour garantir ce qui est compris dans la Constitution et dans ses fonctions qu'il pourra continuer à exister, autrement il va mourir et ça sera peut-être tant mieux.
Monsieur Stéphane Manigold.
Je parle politiquement, bien sûr.
Sujet compliqué. Est-ce que dans nos esprits, nous sommes nous-mêmes perturbés et compliqués? Je m'explique, le Stade de France, un échec cuisant. Mais qui est le responsable? Tous ces jeunes qui viennent et qui veulent saccager. Tu mets n'importe quel ministre de l'Intérieur, le résultat est le même. C'est ce qui s'est passé. Donc que demandent les Français? Plus de fermeté. Tu as ensuite la séquence des rodéos urbains, où les Français encore là demandent de la fermeté, plus de rigueur. Et puis tu as un Darmanin, premier flic de France, qui va vivre ce que nos policiers vivent au quotidien, c'est-à-dire vouloir expulser un imam qui a tenu des propos homophobes, des propos antisémites, et qui veut l'expulser et qui se confronte comme ces policiers à la justice qui dit non, on le laisse, on le libère. Et bien voilà,
il y a un appel devant le Conseil d'État.
Parce que ça, c'est une vendetta personnelle. Parce que c'est une vendetta personnelle.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vient de vivre et je pense a voulu montrer à l'opinion publique que même étant premier ministre de l'Intérieur, il y a des difficultés à expulser un type qui est homophobe, qui est antisémite et qui n'a plus sa place sur le territoire. Je pense que tout le monde, enfin une grande majorité des Français, veulent son expulsion. Et c'est bien, cet épisode montre à quel point il faut que nos institutions changent, que
donc
la loi
évolue. C'est pas la faute du ministre de l'Intérieur.
C'est la loi. Parce que quand tu tiens des propos comme ça, si moi je vais dans un pays autre que l'Europe, puisque je suis un Européen, libre circulation des hommes et des marchandises. Mais si je vais dans un autre pays et que je tiens ces propos, mais sur le champ, je suis expulsé et c'est normal. Et donc aujourd'hui, cet épisode-là vient de démontrer une chose, c'est que la loi doit évoluer. Force, c'est la République. La République, elle est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, la République, elle est piétinée.
Il y a 640 000 personnes qui sont identifiées dans le fichier national des personnes recherchées. Parmi eux, les fichiers S. On a appris que depuis 18 mois, on a appris ça. C'est nouveau. Voilà, c'était pas au départ. Donc, au-delà de cet imam Iquissen, où il y a, encore une fois, c'est ce que je te dis, une surmédiatisation, c'est ça qui me gêne. Pour moi, un ministre doit être dans son bureau. Moi, j'ai travaillé étroitement avec monsieur de Normandie, qui a été ensuite ministre de l'Agriculture, à l'époque de voilà, très apprécié par nos amis agriculteurs, c'est DJ qui me le disait, parce que c'était un homme qui travaillait, qui n'était pas dans la médiatisation absolue à chaque événement. On demande à un ministre d'être enfermé avec ses conseillers dans un bureau, de travailler et de trouver des mesures pérennes pour régler les problèmes. Ce monsieur est dans un show de télé-réalité. Et avant de parler de cet imam surmédiatisé, et je pense que c'est une affaire d'état personnel,
l'homophobie,
il y a 597 personnes au CRA de Paris, et je parle que de Paris, c'est pas au niveau national, il n'y en a que 22 qui ont été expulsés.
Donc tu dis bien que, c'est-à-dire que la loi aujourd'hui, le premier flic de France est confronté à
ce que les pays ne veulent pas récupérer.
Mais on oublie aussi qu'il y a des devoirs. Et ces devoirs, lorsque les gens s'affranchissent de ces devoirs,
je vais continuer à parler en même temps que ça parce que j'ai pas terminé de parler. Voilà, donc si tu veux.
Kauter et Elina Dumont.
Est confronté au fait que les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs ressortissants.
Moi, je vais vous dire. Bon, déjà, je l'ai un petit peu attaqué, monsieur Darmanin, tout à l'heure. Je peux le répéter et redire que.
Ce n'est absolument
pas prioritaire pour lui les problèmes de drogue. Non, moi, ce qui m'énerve chez Darmanin, c'est que
il bosse.
Non, mais attends, c'est la honte pour lui. Bon, je sais qu'une fois il a dit oui, mais
c'est pas
l'erreur
mon copain,
est...
Darmanin, je te le dis.
Elina.
Il dit oui, la première fois. Il dit l'erreur est humaine suite au match. Il a son deuxième quinquennat. Le mec, il bétonne même pas ses dossiers. Il arrive télé, ta. Et le lendemain, tout est déglingué. Non, mais c'est la honte pour un ministre de l'Intérieur. C'est ça que je reproche.
Si ça a été déglingué au tribunal administratif, c'est parce que le dossier n'était pas. C'était de l'amateurisme. Je fais des dossiers contre le mal logement à Marseille tous les jours et je peux te garantir qu'avec mon équipe d'avocats, on gagne parce que nos dossiers sont préparés. Lui, il prépare rien parce qu'il est ministre.
Quand on est ministre de l'Intérieur, il arrive une catastrophe. On se renseigne, on blinde son dossier.
Mais tu penses sincèrement que sur le sujet de l'expulsion, les constitutionnalistes, les avocats n'ont pas bossé sur le sujet?
Effectivement.
En tout cas, c'est bien planté.
On s'en fout de l'appel. S'il était bien ficelé, c'est le ministre. C'est pas mon père qui l'a déposé. C'est le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France. Le personnage le plus important après la première ministre. Donc, normalement, quand tu déposes un dossier, normalement, il est tellement béton qu'il est accepté. Kauter. Il n'est même pas normal qu'on ait un appel. Il y a un problème.
Kauter, je vois une chose dans cet épisode. C'est que le premier flic de France, et on le verra tout à l'heure avec le représentant syndical. Le premier flic de France vit ce que nos policiers vivent au quotidien. Ils remettent devant la justice des délinquants. Et ces délinquants, une heure après, sortent, leur font des doigts d'honneur et les insultent. Voilà le quotidien de nos policiers. Et la force, elle doit être dans les lois de la République et certainement pas dans des gens qui s'affranchissent.
Un policier lambda n'a pas le même pouvoir, les mêmes équipes, les mêmes conseillers et la même capacité de monter un dossier que le ministre de l'intérieur.
Mais justement, c'est pire.
Donc, je ne te permets pas de comparer le premier flic de France à tous les agents qui travaillent péniblement avec un manque de moyens.
Toute la puissance,
je termine.
Toute la puissance de son cabinet.
Mon discours est inaudible. Après, on me dit que je crie parce que je n'arrive pas à discuter avec toi. C'est terrible. Le ministre de l'Intérieur.
Je ne dis pas qu'on ne t'entend pas depuis le début de l'émission, quand même.
Le ministre de l'Intérieur.
Au niveau temps de parole, à mon avis.
Au niveau temps de parole, là, tu as explosé les compteurs.
Le ministre de l'Intérieur a des moyens. Comme
de
toi.
De nos auditeurs.
Comme toi, crois-moi. Un décibel, tu
Philippe,
me parles.
Ensuite, on
le ministre de l'Intérieur a des moyens qui sont importants. Il est censé avoir des professionnels aguerris autour de lui, tout domaine confondu. Et lorsqu'il pose un dossier sur la table sur un sujet aussi sensible, le dossier devrait et aurait dû être béton. Mais lui, il passe son temps sur les plateaux télé. Ceci explique cela.
Alors, est-ce qu'effectivement, Gérald Darmanin ne parle pas un peu trop rapidement? Regarde, par exemple, la guillotière. Tu sais où les policiers ont été tabassés. Tout de suite, il a parlé d'un étranger impliqué qui est en situation irrégulière. Finalement, c'était pas la bonne personne qui avait été interpellée. Là, sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen, qui est une vieille affaire finalement, Gérald Darmanin veut en faire un exemple.
Bon, la loi change.
Ce que je veux dire, c'est que si cet imam a été si dangereux, c'était il y a 20 ans. À ce moment-là, qu'il fallait l'interpeller.
L'opinion publique aujourd'hui est prête.
L'expulser.
On s'en fout de l'expulser.
Là, au moment où il y a le cas imam Iqiyoussen, c'est vrai qu'on a tous été étonnés. Pensait que c'était un dossier qui était suffisamment ficelé, et puis il arrive, et que ce soit de la Cour européenne des droits de l'homme et ensuite le tribunal administratif, trouve que le dossier est vide, et qu'au nom de la préservation de sa vie familiale, il ne peut pas être expulsé en l'état, sachant que depuis 20 ans, il n'a jamais été mis en examen, ni condamné. On s'est offusqué, on s'est indigné, il a été montré du doigt, il a été critiqué. Mais il a toujours exercé, à travers le pays.
Navigante les gouttes.
Oui, sûrement. Mais en attendant, quand le dossier est déposé, Alain, si tu veux, il est pas suffisamment.
Alain, la radicalisation, à un moment, elle connaît une étape.
Monsieur Darmanin, en fait, il est tellement égocentré qu'il s'est dit merde, je me suis planté là encore. Pourquoi je trouve un truc qui. C'est bon, je vais bien y arriver.
D'ailleurs,
il faut sortir, je pense, de la personnalisation. Moi, je parle de la fonction. Et aujourd'hui, le premier flic de France, Darmanin ou qui que ce soit, le premier flic de France n'arrive pas à faire respecter les devoirs de chaque citoyen, ou même pas, parce que lui, c'est pas un citoyen, de chaque personne sur le sol français. Et ça montre les limites aujourd'hui de nos textes. Ils doivent évoluer. On doit renforcer cette capacité, justement, à pouvoir expulser des gens qui ont des propos aussi abject.
La personnalisation est de son fait. Je veux dire, on ne l'a pas forcé à passer son temps à faire des déclarations sans savoir de qui parler à la guillotière. Excuse-moi. Toi, tu es à la tête d'une entreprise. Demain, il y a un vol dans un de tes restaurants ou dans une de tes filiales. Tu vas pas accuser un mec tant que tu n'as pas de preuves. D'accord? Donc, tu as préparé ton dossier parce qu'on n'accuse pas de vol quelqu'un. Je prends un truc banal.
Ça m'empêchera pas de prendre un prud'homme derrière quand même.
Non, mais tu n'as pas compris.
J'ai compris ma réponse.
Non, c'est toi qui n'as pas compris. Parce qu'en fait, tu éludes. La question, elle n'est pas des prud'hommes. La question, elle est en tant qu'employeur, en tant que patron, tu prépares ton dossier.
Bien
et
sûr.
Cet homme, qui est ministre d'État et qui n'est pas n'importe quel ministre d'État, prend toujours la parole avant de avoir préparé son dossier. On dit qu'un mec est potentiellement dangereux depuis 20 ans sur le territoire. Moi qui s'y attelle et qui prouve qu'il est dangereux, qu'il expulse, il n'y a aucun problème. Mais s'il ne passe pas avant la justice et s'il prépare son dossier.
Dans un instant, Yvan avec nous, il nous appelle de Lyon, professeur d'éducation physique et sportive. On verra dans quelle équipe il est. Gérald Darmanin, ministre en échec, oui ou non? Yvan a choisi son camp, il nous dira lequel. On regarde où on en est dans la consultation, justement. Le ministre de l'Intérieur est-il un ministre en échec? C'est quand même un oui à 75% pour la team Elina et Kauter.
Et c'est Darmanin.
Oui, oui.
Est-ce qui fera mieux derrière?
On continue d'en discuter avec vous, bien sûr, au 32-16, en direct sur RMC, RMC Story. Mais il savait que seul contre tous, la partie n'allait pas être facile.
On se
retrouve dans les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui ce GG 7 et match autour de Gérald Darmanin, l'affaire de l'imam Iqiyoussen, le président de la commission des lois qui dépose une proposition, Sacha Houlier, sur le droit de vote des étrangers alors que Gérald Darmanin est contre, le fiasco du Stade de France, l'affaire de l'interpeller à la guillotière. Est-ce que Gérald Darmanin est un ministre en échec? C'est Antoine qui va en parler avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous. Et
bonjour
à tous.
Antoine.
Alors Antoine, équipe oui ou équipe non?
Moi je suis plutôt du point de vue de Stéphane, donc équipe non.
Ah, pourquoi? Expliquez-nous alors.
Bah en fait, alors c'est des, pour être totalement honnête, Monsieur Darmanin est quelqu'un que je ne peux pas supporter. En revanche, moi, je pense que le problème, c'est pas lui. Aujourd'hui, le problème, c'est la justice. C'est-à-dire que on a beau mettre les gens, les arrêter, les mettre en prison, les ficher, faire tout ce qu'on veut. Eh ben, il y a toujours quelqu'un au niveau de la justice qui va dire « Ah non, la pauvre personne, faut respecter ses droits », alors que les gens font clairement, font clairement des conneries, mais ils sont dehors. Donc moi, le problème pour moi, c'est pas Darmanin, c'est la justice, clairement.
Bah oui. Bah, il a raison, toi.
Non. C'est pas un problème du ministre qui veut aller trop vite sans étoffer son dossier, Antoine ?
Bah, aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Parce que j'entends Kauter qui dit que Darmanin, il est tout le temps en train de parler. Mais il y a personne qui débarque aujourd'hui en France. On sait très bien que la politique, depuis 15 ans, c'est que de la communication. Avec les réseaux sociaux, ils sont tous sur les, réseaux à parler.
D'où l'état du pays, monsieur.
Oui, mais
parce que nos politiques ne sont plus occupés à travailler. Il faut de la télé-réalité.
Oui, mais c'est quoi le rapport avec Darmanin ? Pourquoi Darmanin ?
Mais c'est pas Darmanin qui va dealer, c'est pas Darmanin qui va taguer
monsieur,
les cités.
Mais j'ai pris
c'est
d'autres exemples. J'ai pris l'exemple de monsieur de Normandie, j'ai pris d'autres exemples.
Oui,
monsieur de Normandie était apprécié au ministère du Logement et au ministère de l'Agriculture parce qu'il passait son temps à travailler et quand il arrivait en réunion, il connaissait ses dossiers.
C'est quoi le rapport avec l'intérieur, avec l'insécurité, avec la justice ?
Comment ?
C'est quoi son rôle, là, monsieur de Normandie, dans l'insécurité, la justice ?
Mais c'est pas de l'insécurité, la justice que je parle. Je parle que chaque ministre, chaque ministre doit, à mes yeux, s'occuper de son ministère et proposer des solutions pérennes qui vont dans le bon sens du bien commun pour notre pays,
monsieur,
peu importe son ministère.
Et ça, si vous connaissez la politique, depuis 50 ans, combien il y en a des ministres qui ont fait réellement leur travail ?
Monsieur Antoine, c'est Elina. Moi, en fait, l'impression que j'ai de ce monsieur Darmanin, c'est que après tout ce qui s'est passé qu'a raconté tout à l'heure Alain, on a l'impression que ce monsieur, en fait, il a pas le pouvoir qu'il devrait avoir. Moi, c'est cette impression que j'ai, parce que moi, je suis comme vous. Hein.
Moi, je suis totalement d'accord.
Les délinquants, j'ai envie qu'ils soient en prison. Les imams qui font de la mauvaise prêche, j'ai envie qu'ils aillent en prison. Et en fait, on a l'impression que ce monsieur, il a pas de pouvoir. Voilà.
Non, mais ça, je suis d'accord. C'est que ça peut être le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Si la justice veut faire du zèle, ça change rien, en fait.
Moi je suis comme Antoine, en fait. À la base, j'ai pas une admiration folle pour Darmanin, bien au contraire. Mais il faut reconnaître que le mec, il bosse. Il est là. Quand il y a des sujets. Mais si, regarde là, il est pas en vacances, il est pas en train de se dorer la pilule.
Il se balade.
Il prépare les présidentielles.
Okay, que tout le monde se balade comme lui et peut-être que l'état politique de notre pays ira mieux. Mais
non, parce qu'on regarde la preuve, ça va pas mieux.
Mais ce qu'il met sur la table, moi, je trouve très intéressant et Antoine l'a parfaitement résumé. C'est un problème de justice. Il s'agit pas d'arrêter. Nos policiers font un travail remarquable. Ils arrêtent les délinquants.
C'est une fois qu'ils sont arrêtés.
C'est qu'est-ce qui se passe après?
J'ai l'impression
c'est que les mecs ils sont dehors. Et ça, la police. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la police. Peux te dire une chose. Les mecs ils sont excédés. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus d'avoir des délinquants qui arrêtent, qui écoursent. Regarde l'histoire de la vidéo qui a tourné hier, le rodéo où le mec fait un délit de fuite. J'attends de voir la suite de ce qu'ils donnent.
Ouais,
les mecs, ils ont arrêté ce mec-là. Tu dis sur les réseaux, tout le monde dit que c'est des héros. Moi, le premier.
Ou les
bravo.
Policiers qui ont tiré sur le SDF, qui menaçaient avec un couteau aussi.
Bien sûr.
Ce qui s'est passé.
Mais tu vois, il y a un truc qui cloche déjà, Darmanin et Monsieur Moretti. Il y a déjà un truc qui cloche là-dedans.
Ouais, mais ça
tu parlais
de police-justice, il y a toujours eu l'antagonisme entre le garde des Sceaux et
j'ai l'impression d'avoir la France Insoumise en face de moi, mon cher Stéphane. C'est-à-dire que c'est comme hier...
La France Insoumise anti-police, que je ne suis pas, tiens vraiment tout de suite à le préciser.
Dans le sens où tu renvoies... Tu renvoies, on te parle du ministère de l'Intérieur, tu renvoies au ministère de la Justice.
Ah ben j'ai pas parlé de la.
C'est toi qui as parlé
pour Moretti. Moi, j'ai dit
que c'est un problème de justice.
Il y a un sujet que Darmanin met sur la table, je reprécise ma pensée, il y a un sujet que le premier flic de France met sur la table. On arrête quelqu'un qui tient des propos homophobes, antisémites, on le traduit devant la justice pour l'expulser, et la justice dit non.
Donc
vous
dis
comprenez, ce monsieur, c'est un papa, il doit s'occuper de ses enfants. Mais il n'est pas capable de s'occuper de ses mômes.
Il n'y a pas que Equisen dans ce putain de pays, excusez-moi, qui m'appartient aussi. Il y a des tas de problématiques. Il y a des femmes, moi, quelque chose qui me touche particulièrement, il y a des femmes qui sont battues, qu'on n'arrive pas à mettre en sécurité, ça fait des décennies que ça dure. Et pour moi, c'est une priorité parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que celles qui m'ont complètement a priori starbées. Ceci étant dit, quand tu renvoies à la justice, tu renvoies le problème. Rien n'est antagoniste. Ils doivent travailler ensemble. Et quand tu renvoies sans cesse au ministère de la Justice, tu me fais penser au gars qu'on avait hier de la France Insoumise. Non, quand tu lui parles d'un problème, ça, il te parle de la République en marche.
Ne compare pas au guignol d'hier.
Mais attends, voilà. Donc rien n'est antagoniste. Il doit travailler non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec d'autres ministères aussi. Quand tu fais de la... Il faut faire de la prévention aussi. Si la répression était la seule solution.
Ça fait 40 ans qu'on fait de la prévention. On a mis des milliards sur la prévention.
On a mis des milliards.
Il y a des droits,
Mais quand les devoirs, les gens ne les respectent pas. Tu fais des tunnels. On a compris ce que tu voulais dire. Laisse-nous te répondre.
Là, tu as compris, Stéphane, si la répression était la solution,
ça fait longtemps qu'on n'a plus de problème ici.
Antoine, merci d'avoir été avec nous. Eric nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Eric.
Oui, bonjour, et je suis ravi d'intervenir.
Bonjour Eric. Allez, on vous écoute, bonjour. Vous aussi. Équipe oui ou équipe non, alors?
Alors, moi je suis équipe oui, mais je mettrai un bémol. Je m'explique. En définitive, je dirais d'abord en préambule, grandeur et décadence. Pourquoi Darmanin, pour moi, est le produit d'une politique menée par Emmanuel Macron et par sa Premier ministre. Ce que je veux dire, c'est que Macron a décidé de faire un gouvernement, un melting pot en définitive, pour des raisons politiciennes. Mais quand je dis grandeur et décadence, même si je suis de sensibilité de droite, je trouve qu'il y a une décadence par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Je ne suis pas un dinosaure, mais dans les années 70 ou 80, je pense qu'il n'y a pas de cohésion, je pense qu'il y a des choix, je pense qu'effectivement, le ministre de la Justice, qui est adorable, hein, pour moi, c'est un avocat et il défend une certaine idée de la justice. Voilà,
Je crois qu'Éric, on a le même âge, attendez, Éric, souvenez-vous, on a toujours entendu dire que la justice était laxiste, hein, dans les années 70, années 80, années 90, à chaque fois c'était toujours le problème de la justice qui relâchait les délinquants.
On n'a pas arrêté de remanier le code pénal et autres, la justice est débordée en sous-effectif aussi.
Excusez-moi, on ne peut pas comparer un Robert Badinter à ce monsieur. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que dans les choix qu'a fait Emmanuel Macron, pour moi c'est un adversaire, voilà, il a mis un certain nombre de gens, et si aujourd'hui Darmanin est en échec, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de cohésion, tout simplement parce qu'il y a des divergences au sein même du gouvernement. Et tant qu'il y aura ce genre de phénomène, je pense que ce sera encore une décadence, assez lente.
Mais aujourd'hui, la question est de savoir ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez, c'est Gérald Darmanin, c'est le troisième ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Si je me souviens bien, ça a commencé avec Gérard Collomb, ensuite il y a eu Christophe Castaner. Et maintenant c'est Gérald Darmanin. Les policiers aujourd'hui, quels que soient les syndicats, vous les entendez tous, sauf peut-être Alliance qui est assez proche du pouvoir, mais vous les entendez dire qu'ils n'ont... Il y a de l'amélioration, mais qui sont encore loin d'avoir les moyens d'intervenir. Souvenez-vous, l'été dernier, c'était Balance ton commissariat, si je me souviens bien, sur les deux dernières années, sur l'état de décrépitude du matériel. Est-ce que les choses bougent? Peut-être, mais pas assez vite. Ensuite, les reproches qui sont faits à Darmanin ces derniers jours ou ces derniers temps, c'est sur l'affaire du Stade de France, c'est d'avoir pointé du doigt la responsabilité de l'UEFA et des Anglais de s'exonérer immédiatement de ce qu'ont fait les forces de l'ordre qui n'étaient pas bien positionnées. D'ailleurs, le préfet allemand, s'il a sauté derrière, c'est pas pour rien. Mais il obéit aussi au ministre de l'Intérieur, le préfet allemand. Ensuite, sur l'affaire de la guillotière, c'est d'avoir parlé trop vite. Ensuite, sur l'histoire de l'imam Iqiyoussen, ici, vous trouverez personne qui a envie de s'asseoir à ses côtés et de boire un thé avec lui, entre guillemets. C'est d'avoir là encore voulu être allé trop vite, et finalement, devant la justice, le dossier ne tient pas. On est dans un état de droit. On peut peut-être le déplorer que la justice ait pris cette décision, mais elle l'a prise. Or, comme le disent les avocats et les magistrats, quand vous arrivez avec un dossier qui est bien ficelé, où il y a toutes les preuves à charge et à décharge, si la personne doit être reconnue coupable, elle est reconnue coupable. Vous voyez ce que je veux dire, Eric?
Aujourd'hui, Alain, oui, Eric, la justice n'a pas les moyens.
Il est isolé, si vous voulez, dans ce gouvernement, avec le maire, dans le sens où ils ont fait un choix, Macron a fait un choix, excusez-moi, monsieur Macron, parce que j'en ai marre qu'on dise Macron, qu'on dise etc.
Oui, le président Macron.
Président Macron, exactement. Donc, comme monsieur le ministre Darmanin, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que pour moi, il est isolé, il tente des choses, hein, et c'est tout à son honneur. Bon, simplement, il est pris en face de gens dans ce gouvernement qui peuvent être opposés directement ou indirectement, voire même au niveau de l'Assemblée, tout simplement parce que, et ça c'est la responsabilité directe du président Emmanuel Macron. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas vu ça, d'après moi, dans une époque où il y avait une cohésion gouvernementale, à l'époque de Jacques Chirac, à l'époque...
Oui, mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a voulu cette espèce de majorité un peu hétéroclite en même temps avec des personnes qui viennent de camps différents. C'est-à-dire avec Gérald Darmanin qui vient de chez les Républicains et Éric Dupond-Moretti qui était avocat de profession et qui aujourd'hui.
Bah oui. Avec une société. Et on a encore 3 ans avec ce gouvernement.
Éric, merci d'avoir été avec nous.
Stéphane, je tiens juste à préciser. Merci Éric pour l'appel. Je tiens juste à préciser parce qu'on balance des milliards comme ça, un peu comme la France insoumise, n'est-ce pas, Kauter? Le budget de la justice aujourd'hui en France est 3,849 milliards.
Et il a été augmenté sous Dupond-Moretti.
Quand on parle de la dette d'EDF à 8 milliards, le budget total de la justice est 3,84 milliards. C'est rien par rapport à ça. Donc moi, j'ai de nombreux amis avocats qui nous écoutent régulièrement. Ils sont dépités, notamment les pénalistes, parce que les moyens de la justice, les greffiers sont au bord, les juges, c'est des êtres humains comme tout le monde, mais ils travaillent comme c'est pas permis pour essayer de rendre des décisions qu'ils n'arrivent plus à rendre justes, oui, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont trop de dossiers.
Je comprends, mais là tu focalises effectivement sur un dossier, celui d'Imam Iqbal.
Non, je parle en général.
Oui, d'accord. Ce matin, on a le ministre de l'Intérieur qui est auprès des pompiers, en ce moment même, du côté de la Gironde,
avec
Madame Borde,
oui,
la première ministre. Des pompiers, souviens-toi, quand ils ont manifesté il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, où ils réclamaient davantage de moyens, davantage d'intervention.
Il y a eu la répression.
Alors, il y a eu la répression sur
une image désastreuse.
Tu te souviens, ils sont là avec leurs collègues policiers, avec leurs collègues.
C'était une image désastreuse.
Mais seulement, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils réclamaient d'être mieux pris en compte, d'avoir meilleure carrière, d'être mieux rémunéré et qu'on augmente les effectifs. 2 ans après, ou 3 ans après, je ne sais plus quand est-ce qu'était la manifestation des pompiers, on se retrouve avec des ministres qui vont défiler devant eux, qui vont, devant le micro, louer la manière dont ils interviennent sur les incendies, les remercier. Mais 3 ans après, on est encore, si tu veux, à se dire, ce matin, on en a parlé pendant 30 minutes, on a entendu le représentant de la Fédération des sapeurs-pompiers de dire... Bah, on attend toujours d'avoir les moyens qu'on demande. Tu comprends? Donc ça, c'est de l'action politique.
Ça veut dire quoi?
Et un ministre ne peut pas tout le temps.
Ça veut dire un moment des arbitrages.
Dans
ce que tu dis.
Ah oui.
Ah, c'est des arbitrages budgétaires.
Non, ah oui, c'est des arbitrages.
Et ça, les Français, est-ce que demain.
Attends.
Est-ce que demain, les Français acceptent d'augmenter leurs impôts pour tout.
Je crois qu'on avait les mesures.
Quoi qu'il en coûte. Oui, mais le quoi qu'il en coûte, oui,
il faudra le payer à un moment ou à un autre. Mais
ou pas,
on voit bien que là, le quoi qu'il en coûte,
ça a bénéficié dans toute l'Europe et ces dispositifs et des mécanismes de banques centrales, partout dans le monde, ça a existé. Mais la réalité, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que le social, la prévention, on essaie d'avoir quelque chose de plus efficace, de plus abouti, comme l'ARS, l'allocation rentrée scolaire, plutôt que la donner aux élèves, on la donne aux établissements scolaires pour s'assurer que le gamin ait réellement ses besoins? Voilà les arbitrages qu'il faut faire.
Allez,
mieux
Elina,
utiliser l'argent.
Elina, ça s'entend quoi, c'est
attends,
que les familles.
Elina Dumont.
Tout à l'heure, le monsieur qu'on a eu tout à l'heure, il disait que il était genre exclu. Mais en fait, il s'exclut tout seul, il travaille tout seul. Attends, il peut s'accorder avec les autres ministres. Ce que dont tu parles, Stéphane, ça c'est l'éducation nationale. Enfin, il est pas tout seul dans ce gouvernement, ce monsieur. Et ce que je voulais dire, même sur les réservistes, on va sûrement en parler tout à l'heure. C'est j'ai entendu
les policiers réservistes.
Des policiers
avec 15 jours de formation.
Ils sont pas
très contents, effectivement.
Pas très contents par rapport à Darmanin. Hein.
Allez, on y va, on regarde le résultat de la consultation. Gérald Darmanin est-il un ministre aujourd'hui en échec? On a énuméré tous les dossiers au fil de la discussion. Oui, ça n'a pas bougé. 75-25.
Mais tu mets n'importe quel nom en face, t'as le même résultat.
Non.
Moi, j'ai
été très courageux. Bravo.
On va continuer d'en discuter dans un instant avec David Lebars. Il est à la tête du syndicat des commissaires de la police nationale. À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, c'est en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui trois grandes gueules qui tchatchent. Hein, Stéphane Manigol, restaurateur, Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et Elina Dumont, l'intervenante sociale. Et on va accueillir notre invité, on va continuer de parler police-justice. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, qui est avec nous. Bonjour David Lebars. Bonjour. L'actualité nous amène à parler déjà de cette proposition. Vous avez vu des sénateurs qui demandent la légalisation du cannabis. Ils veulent qu'on y réfléchisse politiquement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah, on vous entend pas, David Lebars. Pardon, on vous voit. On a un petit problème de son. Est-ce que ça vient de chez vous? Est-ce que ça vient de chez nous? Allez-y, répondez à ma question, puis on va voir si ça marche ou pas.
Non.
Non, on vous entend pas. Bon, on va reprendre la liaison Skype et puis on en a pour deux secondes.
Les avantages du direct, ça.
Et puis c'est
du vrai direct.
Ah, oui, c'est pas pratique quand l'invité n'est pas en plateau, mais en même temps, ça permet Skype permet justement d'avoir les gens en direct, parce que c'était le débat animé tout à l'heure. C'est vrai que tu as à la fois les policiers qui disent aujourd'hui, on en a assez souvent de courir après des petits trafiquants ou après des petits jeunes, on perd notre temps, et tu as le débat politique qui n'a pas été tranché autour de cette question du cannabis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la réponse de David Lebars.
Mais ouais.
Est-ce qu'on vous en allez-y, répondez, monsieur Lebars.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Bonjour.
Parfaitement. C'est bon, on y va. Alors, que pensez-vous de cette proposition de légalisation?
Alors, j'allais vous dire les choses. Hein. Réflexion politique, c'est toujours très important à avoir, et c'est le travail des parlementaires. Moi, je veux juste dire une chose, j'ai écouté votre émission. Il ne faut pas s'imaginer qu'en dépénalisant ou en légalisant, on va réduire les trafics, on va les réduire à la marge. Qu'est-ce qui va se passer en fait? L'État ne pourra vendre que certains produits dans certaines quantités, et ça s'adressera à une population qui est une population raisonnable, qui voudra rester à ce niveau-là de consommation. Donc tout ce qui est trafic, tout ce qui est criminalité va s'adapter, va vendre des produits de plus en plus forts, et ça va finalement créer un double commerce et une double concurrence. Donc si l'idée, c'est de casser l'économie souterraine ou les trafics, ça, c'est pas la bonne idée. Après, sur le plan santé publique, c'est pas mon sujet, mais il faut pas être naïf là-dessus.
Mais parce qu'on entend souvent vos collègues policiers de terrain dire, écoutez, ça nous prend trop de temps, on a d'autres choses à faire que de courir après les petits dealers ou les petits trafiquants. Au moins, ça, on passera sur une autre délinquance sur la voie publique.
Mais c'est certain que quand on nous faisait faire du chiffre il y a quelques années sur les petits consommateurs, ça n'avait aucun sens. Je crois que les consommateurs, il y a une des réponses qui a été apportée, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. Un consommateur, s'il ne comprend pas que quand il vient alimenter un plan de drogue, il faut le punir au portefeuille, eh bien il y a l'amende forfaitaire. Mais effectivement, sur tout ce qui est petit trafic, il y a une dépénalisation de fait. Nous, on s'occupe des gros trafics, on s'occupe des points qui fait que les gens ne peuvent plus rentrer dans leurs immeubles, ne peuvent plus vivre tranquillement. Et ça, dans des quartiers difficiles, maintenant, ça s'est répandu partout. Et il faut que cette répression policière accompagnée d'une réponse pénale soit maintenue. Le sujet de la dépénalisation, c'est un sujet politique, mais je vous dis, on ne réglera pas cette criminalité qui fait vivre, malheureusement, énormément de monde et sur laquelle nous, on doit continuer de travailler.
Donc, si vous dites aujourd'hui, c'est plutôt à la justice de faire son boulot, quoi, en fait, c'est ça?
La justice, moi, je ne la critique pas par rapport au fait qu'elle le fait ou qu'elle ne le fait pas. Je suis, comme beaucoup sur ce plateau, lucide sur le fait que les moyens qui manquent, le grand absent, c'est l'effort considérable qu'il faut mettre sur la justice pour que la chaîne pénale puisse répondre à la chaîne policière. Moi, je ne connais que des policiers qui interpellent des multiréitérants, qui ne baissent jamais les bras. Et le fait même d'avoir des multiréitérants dans les commissariats, c'est bien la preuve qu'à un moment, la sanction n'a pas fonctionné, n'a pas été dissuasive, ou ils n'ont pas été enfermés. Là, il y a un sujet.
Justement, puisque vous parlez des multiréitérants, on a vu là au cours des dernières 24 heures ces images de cette course poursuite là qui a eu lieu dans Paris avec vos collègues policiers qui ont réussi à coincer une voiture. Bon, alors là on était vraiment dans une scène de film, hein, parce qu'ils sont allés au contact, enfin ils ont percuté la voiture pour l'immobiliser. Ça, c'est le quotidien des policiers, c'est refus d'obtempérer et derrière c'est la course poursuite.
Alors le quotidien, évidemment, c'est les refus d'obtempérer. Un toutes les 20 minutes en France, c'est juste ahurissant. Deuxième point, j'adresse mes félicitations à cet équipage qui a réussi une interpellation technique extrêmement difficile. Mais après, il faut ouvrir les yeux. Ce qui s'est passé là, c'est l'entière responsabilité de l'équipage. Je les félicite, c'est parfaitement réalisé. Mais il faut réfléchir maintenant à la suite. Si on doit en arriver là en France, à ce contact tactique, il manque beaucoup de choses. D'abord, il manque les outils législatifs. C'est la loi qui doit protéger les policiers, c'est pas le chef ni l'administration. Parce que le jour où il y a un ennui, le policier ou le chef, il est tout seul devant la justice. Donc c'est au législateur de réfléchir. Et puis s'il doit réfléchir en ce sens, il faut bien peser les risques. Parce que si on a des blessés, imaginez la même scène avec des piétons écrasés, ou même les auteurs qui auraient été écrasés. Imaginez un certain camp politique qui aurait hurlé au scandale. Donc il faut protéger juridiquement les policiers, il faut légiférer, il faut aussi, si un jour on va sur ce chemin, leur donner les véhicules adaptés. Les États-Unis ont ça, les Anglais ont ça. Il faut des pare-chocs à l'avant adaptés à la poussette. Donc tout ça est très loin d'être une réalité en France. Puis encore une fois, la largeur de nos rues, comme à Paris, c'est pas non plus les rues aux États-Unis. Donc attention à ce genre de manœuvre, c'est pas la panacée, ça ne peut être que dans des cas extrêmement limités.
Stéphane Manigault.
Non, mais vous le rappelez, David Lebars, là, ce qui s'est passé dans Paris, en milieu dense, urbain, avec du monde, c'est formidable, ce qui est l'interpellation. C'est presque miraculeux.
C'est miraculeux.
Mais vous soulignez un point essentiel, c'est une meilleure protection de nos forces de police dans le cadre de ces interpellations. On est tous unanimes pour dire bravo, c'est formidable, merci la police. Il faut que vous soyez mieux protégés si jamais il se passe quelque chose.
Je peux vous rejoindre en quelque chose. Il faut les protéger à la fois avec le matériel et puis également avec des dispositifs juridiques. J'ai trop vu de policiers, vous savez, à qui on dit de faire comme ci ou comme ça. Et puis le jour où il y a un pépin, la loi pénale est faite ainsi, hein, la responsabilité pénale, s'il y a poursuite, eh bien, le policier ensuite il est enclenché dans un processus où il doit rendre des comptes. C'est normal, c'est injusticiable. Mais s'il doit rendre des comptes, il faut que, non pas l'administration, mais que les lois qui nous permettent d'agir protègent nos policiers et leur permettent surtout d'être accompagnés dans le chemin juridique.
Je voudrais que votre position soit claire. Là, on a vu ce refus d'obtempérer, cette course-poursuite dans Paris. Il y a aussi la question des rodéos urbains. Est-ce que vous êtes pour que les policiers puissent désormais aller à ce qu'on appelle au contact technique, c'est-à-dire puissent percuter une voiture, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif légal? Vous êtes pour?
Alors, percuter une voiture quand un crime a été commis, oui, je vous dis, avec des conditions juridiques et les moyens adaptés. En revanche, aller percuter des rodéos motos qui tombent dans les quartiers, aller faire tomber ces voyous qui sont sur des motos en faisant des chocs de véhicules, je vous dis non. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce contact tactique, il est réservé à certains crimes. Il n'est pas adapté aux rodéos. Vous faites ça dans un quartier difficile, un jeune, un voyou qui tombe sur une moto, quel que soit d'ailleurs son niveau d'ancrage dans la délinquance, si vous allez le percuter avec une voiture, je peux déjà vous prédire et vous garantir qu'il n'y aura plus personne pour valider ce type de comportement. Donc ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans de la science-fiction. Il faut l'adapter à certains crimes, des crimes graves, des crimes qui durent, des crimes qui mettent en danger ensuite la population, et donner les moyens aux policiers de le faire dans des conditions très encadrées, très structurées.
Une question, Lina Dumont.
Monsieur Lebars, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, ça donne l'impression que, vous voyez, cette femme-là, cette maman, dont la petite fille a le crâne et à vie, elle aura des séquelles. Enfin, j'espère que vous allez me comprendre, mais ça, on comprend que, bon, qui tue des gamins, c'est pas grave. Par contre, non, il faut surtout pas qu'on bouscule un gamin et puis qu'il se retrouve avec une jambe cassée parce qu'on a fait du touche-touche avec une voiture. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Je comprends très bien, mais c'est pas moi qui dis ça. C'est une partie de la classe politique, des associations qui vont se mettre à hurler, déclencher des manifs, des émeutes, des marches blanches. Les policiers, c'est pas le raisonnement que je vous donne de leur part. Je vous dis juste que on n'aura jamais ce soutien politique et législatif. Ça n'arrivera pas. C'est une chimère. On n'aura jamais l'autorisation d'aller percuter des motos en voiture. Il y a d'autres solutions. Ces motos qui tournent. Moi, j'en avais qui tournaient autour de mon commissariat. Il faut qu'on nous redonne tout simplement déjà la possibilité de mettre des herses. Vous savez qu'on nous les a supprimées, y compris pour les voitures, parce que ça pouvait déclencher des accidents. Là, oui, parce que si la herse fait chuter le motard qui embête tout un quartier, ce sera sa responsabilité. Mais je vous dis juste, le choc tactique sur des motos qui ne font que du rodéo urbain, et je ne parle pas d'un rodéo urbain qui dégénère et qui aboutit à un drame absolument horrible, et je suis le premier à le regretter, mais je vois bien que cette émotion sur ce drame, vous prenez le même drame, mais c'est le voyou qui a le crâne fracassé, et je vous garantis qu'on parlerait d'une semaine d'émeute. Donc je dis juste qu'il faut qu'on soit lucide sur ce qui va être faisable ou pas faisable en France.
Oui, parce que j'espère, monsieur Lebars, que l'objectif aussi, pour la police, je l'espère en tout cas, n'est pas de fracasser le crâne des voyous, parce que c'est pas comme ça non plus qu'on règle les problèmes. Ceci étant dit, je trouve que c'est moi d'aller au contact, je trouve que c'est héroïque et que c'est miraculeux, c'est ce que je disais à Stéphane, qu'il n'y ait pas eu de blessés, y compris chez la population civile, chez les passants. Donc vraiment, c'est un miracle. Ceci étant dit, moi, je vais revenir sur la question du cannabis. J'habite à Marseille, je suis dans les quartiers populaires. C'est une question que je connais bien, malheureusement, et où je vois des drames dans des familles endeuillées et meurtries pour l'éternité, sans aucune solution. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand on dit que ça va continuer à générer le même trafic. Je considère qu'il y a des gens qui vont se mettre à leur compte, etc. Parce qu'on en connaît des trafiquants, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, ils ont grandi avec nous. Ceci étant dit, concernant la prévention, on a eu tout à l'heure un témoignage hyper touchant d'un papa dont le fils était tombé là-dedans et qui ne pouvait pas aujourd'hui prévenir ça ni le soigner. Et je pense qu'en légalisant, on aura des moyens financiers plus importants pour avoir les moyens humains et les structures matérielles pour prendre en charge ces enfants, non seulement faire de la prévention dans les écoles, y compris avec la police, hein, pour dire ce que ça coûte, ce que ça fait, ce que ça coûte en termes de vie, de destruction de vie, des associatifs. Je pense que la prévention, la légalisation permettrait la prise en charge, la prévention et la prise en charge de ces malades, parce que moi c'est des malades, de ces enfants qui deviennent absolument dépendants de cette substance.
David Lebars.
Mais sur ce point-là, je vous rejoins à 100%. Si la légalisation permet à l'État d'engendrer de l'argent pour investir dans la prévention, personne ne va contester ça, pas même un policier. Mon propos, c'est juste de vous dire que parlons de cannabis, parlons d'héroïne, parlons de cocaïne, parlons de crack. Demain, si on légalise, si l'État légalise, vous savez bien, vous et moi, que l'État ne se mettra pas à vendre un kilo de crack, il viendra en acheter, ni 20 cailloux de crack, 5 kilos de cannabis. Il va y avoir des quantités limitées et surtout des taux limités. Le cannabis, l'État va être obligé de vendre un cannabis léger, peut-être à 5, à 6 % de THC. Qu'est-ce que font les voyous, les gros deals aujourd'hui? Ils vendent des produits de plus en plus forts, ils vendent des cannabis à 15, 20% de THC. Moi, j'ai commencé ma carrière de policier, ça n'existait quasiment pas, un cannabis aussi fort. Aujourd'hui, vous trouvez des produits extrêmement puissants et la concurrence criminelle, les mafias criminelles vont s'adapter si l'État prend une part du marché. Je dis juste que ces mafias criminelles vont s'adapter, vont vendre les produits que l'État ne vend pas et ça subsistera. Voilà, c'est juste ne pas être naïf là-dessus. Il y aura des points peut-être positifs et encore, il faut regarder ce qui a été fait à l'étranger. Exactement. La légalisation, certains nous vendent des modèles réussis. C'est faux. Il y a eu des énormes difficultés sur le plan trouble à l'ordre public, sur le plan des populations qui ont été drainées pour venir là-bas parce que c'était devenu des supermarchés. Et pas mal de ces pays-là ont fait marche arrière. Donc soyons très objectifs et prenons tous les sujets dans leur ensemble.
David Lebars, aujourd'hui, il y a des images qui sont devenues banales, celles des attaques de commissariats. On l'a encore vu très, très récemment, on en a parlé ici dans les grandes gueules. Attaque au mortier, attaque au cocktail Molotov. On a vu ce qui s'est passé pour vos collègues là de région parisienne. De quels moyens peuvent disposer les policiers aujourd'hui pour en finir avec ces attaques, cette impunité peut-être que ressentent justement ces jeunes qui les font?
Alors d'abord, ça c'est un constat très grave. Il y a 20-25 ans, on subissait des violences urbaines quand on intervenait dans les quartiers dits sensibles. Aujourd'hui, on voit bien que ces quartiers sensibles, il y en a dans toutes les villes, premier point. 20 ans après, il n'y a plus besoin de violences urbaines par une intervention de police. Ils viennent attaquer les commissariats. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse à ça? Il y en a une seule. D'abord, si l'attaque est très grave, il y a évidemment les légitimes défenses, dans les règles du droit qu'on connaît, on ne va pas réciter la loi. Mais au-delà de la loi, il faut que la justice sur ces actes-là soit intraitable. Quand on va attaquer un commissariat avec des moyens incendiaires, ça sera une tentative de meurtre en bande organisée. C'est le cas dans le Val-de-Marne. Il faut que ces gens-là soient déférés, poursuivis et enfermés, parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément à un commissariat ou à une gendarmerie, sinon le cran d'après, c'est l'invasion, c'est la prise d'assaut d'un commissariat de police. Et là, je ne vous dis pas la réaction où il y aura usage des armes à juste titre par les policiers qui se défendront et qui défendront les biens. Donc, il faut que là-dessus, il y ait les moyens de la chaîne pénale. Moi, j'ai participé à une réunion avec Éric Dupond-Moretti. J'attends celle de la rentrée. J'attends les états généraux de la justice. Je regrette que les syndicats de magistrats, d'ailleurs, ne siègent pas à la table autour de leur ministre, ce que nous, on a fait avec le ministre de l'Intérieur. Il faut progresser et faire en sorte que cette chaîne pénale devienne efficiente. Vous l'avez dit sur votre plateau, je vous ai écouté, les Français demandent de la sécurité. Pour avoir de la sécurité, il faut que la justice ait les moyens de la fermeté.
Oui. Il y a une escalade, monsieur Lebars, de manière générale, dans tous les domaines de la violence, qu'elle soit dans l'espace public ou dans l'intimité ou même dans les commissariats. Moi, je pose une question qui est très simple en tant que concitoyenne. Que faudrait-il faire réellement, au-delà des attaques de commissariats, pour sécuriser le pays quand on sait que, bien entendu, on ne pourra jamais mettre un agent derrière chaque voyou? Ouais. Donc c'est ça la réalité. Donc au-delà de la on va les mettre en prison, on va pas les mettre en prison pour l'éternité. Ils vont sortir tôt ou tard. Je suis pas sûre que le système actuel de la prison soit le bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment sécuriser le pays?
Alors, bon, ça c'est un très long débat. Je vais essayer de vous donner deux trois éléments de réponse. D'abord, on est en 2022. Il faut mettre en place de façon concrète et arrêter les grandes théories. Ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Ça commence par quoi? C'est-à-dire qu'à la police et à la gendarmerie, il faut qu'elle laisser uniquement le gros régalien. Et puis ensuite, il faut décliner le partenariat de sécurité avec les polices municipales, les entreprises de sécurité. Il faut nous délester de missions et de charges indues et nous permettre de redonner de l'air aux deux institutions régaliennes, gendarmerie, pour être sur le terrain. Puis ensuite, je crois qu'il faut qu'on priorise nos actions. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est priorité. Je vous rejoins, madame. Je vous dis pas qu'il faut mettre tous les délinquants en prison. C'est effectivement pas, d'abord, ni pertinent, ni intéressant pour la société. Je parlais des criminels qui, eux, font des actes graves. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre qui fait qu'on retrouve nos policiers dans la rue. Et la police, c'est ni de la proximité, ni de la répression. C'est les deux. Elle doit marcher sur ses deux jambes. Et pour ça, il faut décongestionner cette institution, il faut la décloisonner, il faut lui enlever ses charges indues, il faut transférer des charges à des partenaires privés, il faut avoir ce courage-là. Les États-Unis font garder des bâtiments du FBI par des boîtes privées. Il faut qu'on voit ce qui se fait à l'étranger. Il y a des exemples qui sont excellents à l'étranger. On voit bien qu'on a pris du retard. Puis évidemment, après, il y a toujours l'investissement sur le régalien. J'entendais le budget de la justice par un de vos intervenants à 3,5 milliards. Celui de la police, c'est 11 milliards. Et il y en a 10 qui sont engloutis dans la masse salariale. Vous voyez bien déjà qu'on a 1 milliard par an pour investir. C'est rien, c'est dérisoire. Donc, il faut que tous ces sujets soient mis sur la table et qu'il y ait consensus national. Et là, la route est longue au niveau de la classe politique quand on voit comment les sujets de sécurité font que les différents camps s'étripent les uns les autres.
Il nous reste 1 minute 30, David Lebars. Là. Vous avez vu que la police va être appuyée par les citoyens réservistes.
Ah bah 30 000. Ça va, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, mais 30 000, c'est la question d'Elina Dumont. 30 000 d'ici 2030, 15 jours de formation. Et dans les 15 jours, il y a aussi le maniement de l'arme. Qu'est-ce que vous en pensez de ces citoyens réservistes policiers ?
J'en pense que du bien, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ça va nous ouvrir à la société civile. Ça va être pour le moment 7 000 personnes, à terme 30 000, qui vont venir de différents métiers, plombiers, charcutiers, boulangers, cadres, pilotes, qui vont venir nous aider dans la police, ils vont découvrir l'institution de l'intérieur. Deuxième point, ce ne sont pas des policiers au sens actif du terme, c'est des citoyens réservistes volontaires, ils sont formés, mais ils seront encadrés par des gens qui, eux, feront en sorte de les mettre sur des missions dans lesquelles ils peuvent aller, ils vont pas être avec les mêmes missions que les policiers actifs. Et puis, troisième point, ça va créer des vocations et ça va aérer notre institution. Ça n'a que des effets positifs, la gendarmerie a ce dispositif depuis longtemps, d'autres pays l'ont fait, on avait du retard, on est en train de rattraper ce retard.
Merci David Lebars d'avoir été en direct avec nous dans les GG sur RMC et RMC Story. Ma chère Kauter, Elina, chez Stéphane. À bientôt dans les grandes gueules. On se retrouve demain avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Etienne Nebig, l'éducateur, Mehdi Ghezard, chef d'entreprise. Et à midi moins 25, on reparlera de l'imam Iqiyoussen, de ce testing là sur les plages privées de la Côte d'Azur avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Passez une bonne journée et rendez-vous demain 9h. Et n'oubliez pas les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC et sur rmc.fr. À demain.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.